France Inter. Ali Badou. Le 6-9.
Et deux invités dans le grand entretien aujourd'hui, Claudine Nougaret et Raymond Depardon. Bonjour, rebonjour Raymond Depardon et bonjour Claudine Nougaret. Vous avez travaillé longtemps, depuis longtemps, vous à l'image Raymond Depardon et vous Claudine Nougaret pour faire le son de documentaires, de films qui sont restés dans nos mémoires. Et on va reprendre le fil de notre discussion. Nous devions parler des Jeux Olympiques avec l'historien Pascal Blanchard qui dirige une somme absolument colossale consacrée aux Jeux, des questions d'image et des questions d'histoire, et c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé et sur lequel vous allez travailler, Raymond Depardon. Vous avez photographié des Jeux Olympiques au Japon, Sapporo, 1972, c'était des Jeux d'hiver.
Oui, puis avant j'avais commencé en 64, Tokyo, et j'ai fait Mexico 68. J'ai dû faire aussi des Jeux d'hiver. J'ai fait des Jeux d'hiver de Grenoble, bien sûr, avec Killy et le général de Gaulle. J'ai fait ensuite, après Montréal, avec Nadia Comaneci. Ça, c'était formidable. Et bon, et puis ensuite, j'ai fait
Moscou
en 80. Et là, j'ai arrêté un peu. Et c'est, ce qui est formidable, c'est que toutes ces photos sont en noir et blanc.
Berlin, dit Claudine Nougaret.
Oui, mais j'ai pas de Jeux Olympiques de Berlin, moi.
Non.
En 36, vous étiez, non pas jeune, mais vous n'étiez pas encore né. Ce qui est assez frappant, c'est vrai, c'est que vous avez photographié le sport, Raymond Depardon. On n'imagine pas cette dimension de votre travail. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le corps athlétique et quelles sont les histoires que vous avez voulu raconter?
Au départ, c'est une commande. On m'a dit, tiens, allez, tu vas aller faire les Jeux Olympiques, un peu comme on m'avait dit, t'as pas fait ton service militaire, tu vas aller faire le FLN à Évian.
Oui.
Donc c'était un peu comme ça, les salles de rédaction sont comme ça. Et j'ai trouvé ça incroyable, formidable. Mais c'est très difficile à photographier. Sinon, ça va très vite, ça recommence pas, on peut pas en recommencer. Et à la fois, il y a quelque chose comme ça, surtout par exemple, je me rappelle à Montréal, il y avait une dizaine de jeunes athlètes russes, roumains, etc. D'un seul coup, tu vois rien, puis d'un seul coup arrive une... sur la poutre, par exemple, c'est un exercice imposé,
oui.
Simple comme bonjour, hein. Elle est sur la poutre, et puis elle fait un saut périlleux, triple saut périlleux, puis elle retombe dessus, comme ça. Et si t'es pas prêt, et là, il faut un 300 mm, 2,8, faut être au 2 millième de seconde.
Expliquez-nous, 300 mm, ça veut dire qu'on est loin.
On est très loin de
la gymnaste.
Serré, comme ça, parce que, et il faut un télé très rare, trouver qu'on trouve en ça au Japon, il y a quelques exemplaires, comme ça, des 300 mm, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un peu là. Donc, et puis il faut être très rapide. Et puis, voilà. Et elle reviendra plus. Nadia Comaneci, elle a gagné. Elle a 9 sur 10, 10 sur 10. C'est un peu la même chose aussi des 100 mètres. Il y a des 100 mètres à Mexico. Ils étaient tous en dessous de 10 secondes. C'est incroyable. Donc, bon, puis on rate quelques photos, bien sûr. Moi, j'ai raté aussi des photos. Mais il y a néanmoins quand même quelque chose qui est du domaine de l'histoire, comme ça. Ces gens-là sont... Moi, je me souviens, comme ça, il y avait cette phrase, comme ça, dans la conférence de presse à Mexico,
oui.
Il y a un noir américain qui a dit, parce que tout le monde disait, mais faut pas mélanger la politique et les sports, et les journalistes étaient un petit peu furieux, et puis il dit, mais vous savez pas ce que c'est d'aller au restaurant avec votre femme et qu'on vous refuse et qu'on vous dit il n'y a plus de place. Et ça, c'est très émouvant, comme ça. Ces athlètes noirs américains qui viennent
1968, justement, ouais, à Mexico, il y a une image qui est entrée dans les mémoires. Elle est présente dans tous les manuels scolaires aujourd'hui. Ce sont les athlètes Tommy Smith, John Carlos, qui lèvent leurs poings sur le podium du 200 mètres pour dénoncer le racisme aux États-Unis et soutenir le mouvement des Black Panthers. Ça, c'est un moment historique. À quel moment une photo fait histoire, Raymond Depardon?
Ben là, dès qu'il y a quelque chose qui cloche, Moi, je me rappelle Bimone, comme ça. Moi,
j'ai cloche.
Oui, oui. Bimone, on a tous raté, parce qu'il y avait que le photographe mexicain qui était de poule, qui l'a fait comme ça. D'un seul coup, il saute un mètre de plus que le record avant. Tu apprends, enfin, moi j'ai appris après plus tard, qu'il s'était saoulé à la tequila, que sa femme l'avait plaqué, qu'il a été viré de son université. Et le gars saute comme ça. Et alors, tout le monde se lève dans les tribunes, et puis d'un seul coup, il y a un orage comme ça. C'était à Mexico, c'était au mois d'août comme ça. La foudre qui tombe sur le stade. Waouh, magnifique quoi. C'est des moments comme ça qui ne peuvent pas s'expliquer. Mais alors, c'est vrai que les premiers Jeux Olympiques, moi je me souviens à Tokyo, ce dont je souffrais le plus, c'est qu'on n'avait pas de médaille.
Oui.
Les Français. Il y a eu un.
Et malgré tout, ça reste une compétition et voilà. Ça reste des moments auxquels on est extrêmement voilà. Attaché.
Et puis, c'est un festival d'appareils photo. Moi, je me souviens, il y avait des photographes qui me disaient, non, ça sert à rien d'avoir le moteur pour faire des photos de sport. Et alors, j'ai acheté un moteur quand même, parce que c'était la première fois qu'il y avait des moteurs sur les appareils photo. Et puis, alors.
Ça permet de prendre des photos en rafale?
Oui. Surtout, c'est un avantage, c'est que tu armes pas. Donc tu peux rester comme ça et sur certaines choses, soit en perche, soit à la perche, soit en hauteur, les sprints, c'est formidable quand même. Bon, voilà. Mais c'est tout un, c'est un peu entre le peintre et le caméraman de la télévision, quoi. Là.
C'est une assez belle définition et d'ailleurs j'invite nos auditeurs à vous interroger, à partager leur passion et des Jeux Olympiques et de la photo et du documentaire au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Il y a ce moment de l'instant décisif et il y a aussi ce projet qu'on vous a demandé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, un projet. Comment vous le définiriez, Claudine Nougaret? C'est exposer des photos de Raymond Depardon dans la ville, c'est sur très très grand format.
En fait, c'est un parcours photographique dans la ville, donc on peut suivre ces 16 pas grands, c'est pas des affiches, c'est pas des panneaux, c'est des grandes bâches sur des immeubles. Et à chaque photo, il y aura un QR code et il y aura un petit film où Raymond expliquera comment il a fait la photo. Et il y aura aussi un rappel historique avec des archives de l'INA. C'est quelque chose de très complet.
Quelque chose de très complet et qui est comparable, Raymond Depardon, à ce que ferait aujourd'hui le jeune photographe JR de très grandes installations. Et ce sera donc toujours en noir et blanc.
Ah oui, c'est impressionnant parce que moi j'ai vu les simulations, j'espère que ça va comme ça. Il y a Mark Spitz qui a été un nageur américain incroyable, il a tout raflé, je ne sais plus à quels Jeux Olympiques.
Oui.
Mais il nage, c'est un bel athlète comme ça, et il y a une bâche qui fait tout un pont du périphérique. Bah, magnifique.
Et ça va être assez extraordinaire. Il y aura d'autres bâches qui feront la taille d'un immeuble et c'est assez sidérant. En tout cas, c'est l'une des raisons d'attendre avec impatience le début des Jeux Olympiques. C'est dans 100 jours maintenant. Dans ce livre, Les années déclic, Raymond Depardon, que vous signez avec Claude Lefort, il y a beaucoup de stars, de vedettes du cinéma, réalisateurs, acteurs, je le disais. Et il y a ce moment où vous vous retrouvez dans la salle de bain avec Pelé. Le roi du football, le roi du monde, et vous le photographiez nu sous la douche. Comment une scène comme celle-ci est possible? Gérard Lefort dit quelque chose d'assez fort en mémoire du temps où le football n'était pas une industrie mais un sport populaire, voire planétaire. On pouvait être célèbre mondialement, adulé aussi bien par un gamin du fin fond du Brésil que par un fils d'émigré polonais du nord de la France. Et leur fraternité est manifeste, on voit donc Pelé sous la douche en 1960.
J'ai pas d'infraction, moi j'ai pas de souvenir que j'ai forcé les choses, c'était un peu naturel.
Voilà. Ce serait impensable aujourd'hui.
Mais oui, sérieusement.
De rentrer dans les douches avec Kylian Mbappé.
Il y avait Copa à côté, il y avait tout ça, et puis, voilà, un coup de flash dans les douches, tout le monde était là, tout le monde était content, souriant. C'est vrai que c'est avec le temps que la photo prend un peu de sa valeur. C'est ça la force aussi de la photo, c'est qu'elle aussi, elle vieillit. Il y en a qui vieillissent formidablement bien, parce que cette photo, c'est même moi, j'ai un souvenir comme ça de très plaisant d'avoir fait cette photo.
Mais elle est extraordinaire. L'autre photo qui est dans un stade avec Pelé et Coppa, elle est extrêmement forte aussi parce que ce sont, je le dis encore une fois, donc un enfant très pauvre venu du Brésil qui rencontre Raymond Coppa, qui lui est un fils d'émigrés polonais. Ça raconte beaucoup de choses. Vous avez une définition de la photo. En général, on dit de la photo que c'est un cliché, un instantané, comme si c'était quelque chose qui était par nature voué à disparaître. Pour vous, c'est exactement l'inverse. Une photo, c'est ce qui reste.
Oui, pardon. Oui, parce que ces moments-là, moi, je vois qu'il y a les choses sont, on ne sont plus les mêmes que maintenant, parce que j'avais l'impression peut-être que les gens acceptaient de se faire photographier. Tout le monde était content, heureux. Il n'y avait pas aucune opposition. Et on posait pas, il n'y avait pas, ça durait pas très longtemps. On faisait une photo comme ça, merci, bonjour. Et les gens étaient contents, les sportifs, les vedettes de cinéma, tout le monde était, et la photo était, c'était naturel, quoi. C'était quelque chose qui était nécessaire. Et la photo, effectivement, aujourd'hui, elle a peut-être continué son cheminement et elle arrive à être très bien imprimée dans les livres, à être exposée comme ça, sublime tirage. Et on peut revoir comme ça. Elle raconte une histoire et à la fois, elle est pas trop bavarde, quoi. Elle est un peu silencieuse, la photo. C'est ça qui est pas mal.
Elle est un peu silencieuse, même si parfois on a l'impression qu'elle parle.
Oui.
Ces photos, et notamment celles qu'on trouve dans les années déclic. Est-ce que vous diriez que votre œil a changé? Je vais poser la question d'ailleurs à Claudine Nougaret qui travaille avec vous. Vous diriez que l'œil de Raymond Depardon a changé au fil du temps?
Alors, en général, les gens me demandent si Raymond travaille en numérique et je dis, il vient juste d'arriver à la couleur. Donc,
soyez patient.
Soyez patient. Donc. Effectivement, je pense que l'utilisation de la couleur est nouvelle quand même dans ton œuvre, puisque tu as quand même 40 ans de noir et blanc et que tu as une joie de travailler la couleur. Ouais.
Mais le noir et blanc, oui, est-ce que j'ai changé maintenant?
Votre œil.
Tu es de plus en plus doux, moi, je trouve.
Ah bon?
Oui.
Oui, je trouve qu'il est de plus en plus doux dans ses photos. Il a moins besoin de jouer au photographe de guerre, quoi.
Ça, c'est vrai que vous l'avez été, photographe de guerre, et vous avez photographié des scènes extrêmement intenses, et je le disais notamment dans ce livre, Les années déclic, vous avez photographié une manifestation très durement réprimée pour l'Algérie indépendante. C'est quelque chose que vous avez connu aussi, les théâtres de guerre, les conflits. Vous avez parcouru le monde, et c'est assez frappant de voir ces années déclic, les années déclic avec toutes ces vedettes, ces personnalités du cinéma, mais et la partie dont vous êtes le plus fier de votre œuvre, ces photographes sur les zones de conflit.
Ben, c'est vrai que je suis arrivé bon, à la décolonisation, donc en 60, voilà, après-guerre. Donc on m'a envoyé en Afrique.
Vous avez 18 ans en 60.
Voilà, on m'a envoyé en Afrique et puis c'était formidable parce que comme je parlais pas de langue étrangère, j'avais pas fait d'études secondaires, donc les gens étaient là, ils étaient formidables, ils m'accueillaient vraiment, ils étaient contents de voir un jeune français.
Oui.
Et puis voilà, ils sont partis, ils partaient dans les montagnes faire la guérilla contre le gouvernement, un peu comme nous pendant la résistance, après tout, voilà. Et puis je les ai suivis. Et puis à un moment donné, bah, ils sont descendus sur la capitale, et ils ont pris la capitale, et ils sont devenus Premier ministre, Président de la République, tout ça. Et donc j'ai suivi ça, et c'est formidable pour moi, parce que c'est quelque chose qui fait que je sais qu'un jour, mon père, avant qu'il disparaisse, il m'a dit « Mais pourquoi tu vas toujours faire ces toubous au Tchad, là, etc.
Oui. »
Et j'ai bégayé une réponse que j'ai mal formulée. Et puis quand je suis revenu, il n'était plus là. Puis après, je me suis dit, voilà, écoute, ces gens-là en font finalement, pour la plupart des gens qui peuplent l'Afrique, sont des éleveurs, au fond, comme toi.
Oui, c'est pas si loin
bon, voilà,
de l'activité
après,
familiale.
Bon, il n'y a pas le même niveau de vie, mais
non.
Finalement, ils sont aussi angoissés que toi, aussi angoissés qu'un photographe. Et ils sont fantastiques, et c'est des éleveurs, c'est des gens, c'est des paysans, quoi.
Au Tchad, en l'occurrence, et en Algérie, ce qui est drôle, c'est que vous dites que vous avez choisi la photographie parce que vous étiez un mauvais cultivateur. C'est peut-être une bonne chose, finalement, pour faire naître une vocation. L'Algérie, c'est, je le disais, une sorte de toile de fond dans ce livre, dans de très belles photos, les années déclic. L'Algérie, vous y êtes retourné. Vous avez accompagné le très grand écrivain et journaliste Kamel Daoud. Il vous a demandé de venir avec lui prendre des photos de l'Algérie parce que c'était un pays, aujourd'hui encore, un pays sans photos, sans images et donc sans mémoire, ouais, Raymond Depardieu.
Absolument, absolument. D'ailleurs, on est parti avec Claudine et on a pris la décision d'avoir une technique un peu comme ça. Les rues d'Alger, moi je les connais parfaitement, mais je sais que les gens sont un peu méfiants surtout. Et donc, Claudine et moi, on est de la province, ce qui peut être une qualité quelquefois.
Oui.
On dit bonjour quand on croise les gens dans la rue. En province, on dit bonjour, même si on connaît pas la personne. Donc on a marché comme ça. D'abord, on était un homme et une femme. Moi, j'avais un Leica comme ça, un seul, pas beaucoup d'appareils, comme ça, j'allais très vite. Et puis, on croisait les gens, on leur disait bonjour. Alors, surpris de voir un Européen leur dire bonjour, vous êtes des nostalgiques. Alors, disait non, non.
Ah oui,
non.
Comme si vous étiez des pieds noirs qui voilà. Retourniez.
On disait non, non. C'est la première
fois. Phrase de votre enfance.
Claudine était. Comme Claudine est de Montpellier, elle connaît bien le Sud. Au fond, finalement, il y a une seule culture, c'est celle de la Méditerranée.
C'était juste après les manifestations en Algérie, et donc les gens étaient quand même assez sur la défensive.
Manifestations contre Bouteflika.
Oui, l'Irak, ouais.
Et l'Irak, et vous y êtes retourné plusieurs fois.
Et donc. Nous, en fait, on avait peur pour Kamel Daoud et Kamel Daoud avait peur pour nous. Il nous disait, mais pourquoi vous dites bonjour aux gens, vous les connaissez pas? Je disais, bah non, c'est normal. Et lui, il se méfiait beaucoup qu'on soit embêté et nous, on avait peur pour Kamel, quoi. Enfin, voilà, c'était...
Et je peux témoigner que vous avez dit bonjour à absolument tout le monde à la maison de la radio. Voyager et n'être rien du tout, ni touriste, ni reporter, ne chercher aucune performance, ne rien chercher à prouver, c'est l'une de vos phrases, Raymond Depardieu, elle est dans un livre magnifique, Traversée. On est en ligne avec Pierre qui nous appelle. Bonjour Pierre.
Bonjour Ali, bonjour
bienvenue.
Monsieur Depardieu, bonjour Claudine Nogaret.
Vous aviez une question, ou en tout cas signaler un événement qui se déroule dans l'Ain.
Oui, en fait, je suis membre du conseil d'administration du Centre culturel de rencontres d'Ambronay, qui organise à la fois le festival d'Ambronay, le festival de musique baroque au mois de septembre, et actuellement, et à partir du 1er mai, une grande exposition, Le bonheur est dans le cliché,
Agence
Magnum.
Le bonheur est dans l'image.
Le bonheur est dans l'image. Et voilà, je voulais remercier et Magnum et évidemment Monsieur Depardieu pour cette extraordinaire expo qu'on va avoir dans le monde rural. Et c'est important, la culture dans le monde rural.
Merci pour votre intervention, Pierre. Merci. Et je signale que
Merci
France
beaucoup.
Inter, d'ailleurs, est partenaire de cette exposition. Le bonheur est dans la photo. C'est assez rare de vous voir photographier le bonheur, Raymond Depardieu.
Oui, parce que au fond, finalement, au début, je le voyais pas comme un bonheur, la photo. Je voyais comme une douleur, comme ça. Et à la fois...
Comme une douleur?
Oui, bah oui, parce que j'étais... Je sais pas, c'était... Il y avait quelque chose qui poussait à m'approcher, parce qu'on me disait, approche-toi, fais un gros plan, fais des photos téléobjectifs, et toujours chercher la meilleure photo, la quête du Graal, comme ça.
Oui.
Je connais ça, donc, et puis, toujours l'apport du concurrent, quoi, qui fait une meilleure photo que vous, aussi.
Vous vous sentiez en compétition?
Oh, bah oui, contre les agences, on a fait ça que ça, quoi, bien sûr, mais c'est un peu normal.
C'est la première fois que Raymond accepte une rétrospective. Donc c'est un travail, c'est une exposition qui parcourt tout le travail de Raymond, vu par la famille Depardieu, en fait.
Par la famille Depardieu.
Oui, c'est voilà, parce que Raymond il voulait pas faire une rétrospective, et donc ça a été pris en main par nos fils, nos belles-filles, et tout le monde s'y est mis en disant mais Raymond, il y a pas de raison que tu montres pas tout ton travail, et il y a beaucoup de bonheur dans cette exposition.
Et c'est une très très bonne idée en l'occurrence, parce que c'est vrai que vous avez reçu un César du meilleur documentaire pour Délit flagrant, qui est un chef-d'œuvre. Vous y allez à Claudine Nougaret à Cannes? Pour être jurée?
Oui, alors moi je suis nommée jurée de la Palme d'Or du court-métrage. J'ai l'honneur de pouvoir être...
Et quant à vous, Raymond Depardieu, vous irez?
Ben, peut-être qu'ils vont...
On ne sait pas, on attend une réponse.
On attend une réponse, bien sûr, moi j'irai, je vais de temps
en
temps.
Et puis il faut au moins aller revoir votre ami, votre pote, j'allais dire, Francis Ford Coppola, qui sera reçu en majesté. Il y a de très très belles photos de Martin Scorsese également, qui termine ce livre magnifique que vous signez donc avec Gérard Lefort. Les années déclic, c'est aux éditions du Seuil.
Je voudrais aussi dire que j'ai le prix de la jeune technicienne pour valoriser les jeunes techniciennes dans le cinéma français. C'est la quatrième année et chaque année, il y a un photographe qui nous soutient et cette année, c'est Dolores Marat. Et c'est formidable. On met en avant la pénurie de femmes techniciennes dans le cinéma français.
Oui, et en tout cas, ça, c'est un vrai chantier. Oui. Raymond Depardon, Agnès, j'ai été étonné par les femmes. C'est mon premier film féministe, glisse Depardon. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faudra aller voir votre rétrospective pour comprendre. Merci infiniment à tous les deux, Claudine Nougaret et Raymond Depardon, d'avoir été les invités d'Inter. Je vous souhaite un magnifique dimanche.